Bien. Nous continuons notre méditation qui consiste essentiellement à nous remettre présent à l'esprit ce pourquoi nous sommes faits sur terre, ce que nous avons à faire durant ce court séjour que nous est donné de vivre sur cette planète. Qu'il n'y ait pas, comme disait le père Thomas Philippe, qu'il n'y ait pas de temps perdu pour l'amour. Je pense qu'au jour du jugement, enfin même avant, parce qu'il y a des lumières anticipatrices qui sont données, j'en ai été témoin avant la mort, des lumières anticipatrices du jugement, nous regretterons tous de ne pas avoir suffisamment profité de chaque instant de cette existence terrestre. Profiter pour faire quoi? Profiter pour permettre au don de l'amour divin de germer, de pousser, de fructifier. Et gardez présent à l'esprit l'image de la petite graine. Je vous demande un instant de vous remettre à l'esprit cette image d'une graine qui ne demande qu'à pousser, qu'à fructifier, c'est la grâce sanctifiante, c'est la charité divine, en nous, à travers nous, pour notre joie, pour la joie du monde, pour notre vie, pour la vie du monde. Et si vous aviez bien intégré le texte du Concile, en réalité, c'est toute la vie qui est concernée. C'est-à-dire qu'en réalité, si nous étions sages, nous pourrions nous remettre présents à l'esprit à chaque instant la parole de saint Paul aux Thessaloniciens. Et voici quelle est la volonté de Dieu. À tout instant, nous devons faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et voici quelle est la volonté de Dieu, dit saint Paul. C'est votre sanctification. Rien d'autre. Tout dépend de là, de ça. Posez la question dans des circonstances difficiles, relationnelles, vous avez un problème avec tes voisins, vous avez un problème avec le notaire, vous avez un problème avec le plombier, vous avez un problème avec votre ordinateur, comme moi ce matin. Quelle est la volonté de Dieu? Votre sanctification. Vous allez me dire, quel rapport? Tout est exercice. Tout est matière, tout est occasion. De quoi? Ben d'exercer les vertus. Rien qu'en prenant les choses sous l'angle des vertus, après d'exercer la prière, d'exercer la foi, d'exercer l'espérance. Tout est occasion. Tout est matière. Voyez, d'arriver à rentrer dans cette vision où on n'est pas préoccupé par rapport à l'œuvre à produire. L'œuvre à produire, en réalité, c'est le grain de blé qui pousse et qui porte du fruit, ou c'est l'arbre qui puise et qui porte du fruit. L'œuvre à produire, elle vient naturellement. L'œuvre à produire, ce n'est pas notre affaire. C'est Dieu qui nous fait fructifier. Ce qui est notre affaire, c'est la sanctification. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne sanctifie pas sans nous. C'est ça qui devrait nous préoccuper si on était un peu plus croyant en la réalité du royaume de Dieu. Si on prenait au sérieux les images de l'Évangile comme celle du levain qui fait lever toute la pâte, comme celle du grain de sénévé qui est le plus petit, auquel on ne fait pas attention et qui pourtant devient un grand arbre. Alors, vous voyez, on se prend la tête par rapport à des œuvres qui me dépassent. Par exemple, je prends pour moi une œuvre qui me dépasse à chaque fois. Ça s'appelle la prédication. On cherche à... C'est pour moi prêcher, c'est élaborer un discours par mes propres forces, je vais droit au mur. Et voilà. Souvent, on se focalise sur qu'est-ce qu'on va dire, comment parler, que dire. Rappelez-vous l'évangile, Matthieu 10. Quand on vous fera comparaître devant des juges, ne vous inquiétez pas comment parler, que dire. Mais sur le moment, c'est l'Esprit Saint qui parlera en vous. Il parlera en vous moyennant quoi? C'est pas qu'il faut rester passif dans une attente magique en disant c'est Dieu, la grâce va venir, il va y avoir un miracle. Non, on reste pas passif, mais on se sanctifie. Et si on se sanctifie à travers toutes les choses qui viennent les unes après les autres, dans une journée, au moment voulu, quand il y aura une parole de lumière et d'amour, ou un geste de lumière et d'amour à poser comme un fruit mûr, eh bien il sera donné. Ce n'est pas possible qu'un arbre bon, c'est-à-dire un arbre uni à Dieu, un arbre saint, ne porte pas de fruits saints. Ce n'est pas possible. Philippine, dont on a parlé ce matin, cette jeune fille grabataire qui n'a pas de cortex, qui n'est sourde, aveugle, j'ai jamais vu une personne aussi handicapée quand j'ai travaillé à l'Arche. Philippine, elle convertit autour d'elle. Anne Claire pourrait en témoigner.
Convertit d'abord sa famille, comme tous nos enfants handicapés. Hein. Quand on vit avec eux, on est affronté à toutes nos pauvretés, toutes nos misères, toutes nos impatiences, toutes nos. Et il y a deux solutions, soit la révolte, soit se laisser purifier. Et donc, si on accède, et on passe de l'un à l'autre de temps en temps, et en fait, donc de ce côté-là, c'est la première chose que j'ai comprise, moi, j'ai une fille autiste, et avec ma fille autiste, ça a été, quand elle était petite fille, la première chose que j'ai eu à affronter, c'est toutes mes insuffisances et mon incapacité à aimer et toutes mes impatiences, j'avais envie de l'acheter par la fenêtre 3 fois par jour. Et donc c'est ça qui a été le lieu où j'ai été obligée de crier vers Jésus. Et donc la grâce de ces enfants-là, c'est de nous obliger à être dépendants de Dieu.
Moi, quand je la vois, ça me fait énormément de bien. Dans sa passivité, dans son immobilité, dans son abandon total, moi qui ai tant de mal à rentrer dans cette passivité, elle me remet en place tout de suite. La présence de Jésus en elle est tellement évidente que plusieurs fois, je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à genoux. Père Thomas Philippe, quand il est arrivé à l'Arche, il pensait que les personnes handicapées, parce qu'elles ne pouvaient pas poser d'actes libres, concrets, conscients, et elles ne pouvaient pas se sanctifier. Et c'est oublier que la première liberté, c'est la liberté de consentement. Celle qui consiste à se disposer, à s'ouvrir à l'amour. Cette liberté de consentement, elle existe chez les personnes en état de coma profond. Elle existera jusqu'à la dernière seconde de notre mort. C'est le secret du sanctuaire, qui s'appelle le cœur, là où Dieu demeure et là où il est toujours possible à l'homme de prononcer silencieusement son fiat, son oui à Dieu. Personne ne pourra nous enlever ça.
Un jour, Sophie, ma fille, allait chercher sa fille, parce qu'elle passe de 9h du matin à 17h, sa journée dans un centre où elle est soignée, et elle allait la rechercher, et les personnes du centre lui ont dit « Votre fille est gentille ». Et ma fille a répondu « Elle ne peut pas faire autrement que d'être gentille ». Et puis, le lendemain, ils ont réinsisté, ils ont dit « Non, votre fille, elle est gentille ». Et en fait, ce que dit Louis là, c'est que maintenant, on a mis du temps à le comprendre. Au début, on se disait « Bah oui, elle est gentille, évidemment, elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien faire, elle est gentille, oui ». Mais les gens qui l'ont soignée, et qui d'ailleurs dans ce centre, et qui ont beaucoup d'amour pour elle, c'est impressionnant, eh bien, avaient vu qu'il y avait un oui de ce fiat, Philippine, elle l'a fait. Il y en a d'autres handicapés qui ne l'ont pas encore fait. Et ils nous disaient, mais non, il y en a qui ne sont pas comme ça. Et qui n'ont pas plus de capacité qu'elle. Donc, le fiat, même ces enfants-là, ils le font ou ils ne le font pas. Quoi. C'est mystérieux.
Elle a un cœur bon qui grandit dans l'amour. Et on voit qu'elle est intelligente aussi. L'esprit est à vif. Et cet esprit, il grandit dans la lumière aussi. Il y a l'essentiel qui est là. Dieu est juste. On ne peut pas permettre que parce qu'on est avec un handicap terrible, on ne puisse pas grandir vers la vie éternelle. Ce sera toujours possible. Vous pouvez retrouver en prison, vous pouvez retrouver comme Van Toile pendant 13 ans en cellule d'isolement, vous retrouvez dans des situations impossibles si vous êtes croyant. Ce n'est pas permis de désespérer. Parce que l'amour est toujours possible. Il est toujours possible de se disposer à s'ouvrir au don divin. Il est toujours possible de profiter de tout pour grandir dans la lumière et dans l'amour. Toujours possible, rien ne nous séparera de Jésus-Christ, dit Saint Paul. Ni créature, ni avenir, ni présent, ni avenir, ni ange, ni personne, rien. Si on était convaincu de ça, on se rendrait moins malheureux pour des choses qui n'en valent pas la peine. On arrêterait de dire « je ne peux plus vivre, ma vie n'a plus de sens », on arrêterait de dire « mais mon projet ne se réalise pas, je ne peux pas faire ce que je veux, pas me réaliser », on arrêterait. Ça, c'est des chimères, c'est simplement qu'on voit les choses dans l'esprit du monde et on reste englué là-dedans, enfermé là-dedans. Et puis, quand on se retrouve sur un lit d'hôpital, je vous le redis, en fin de vie, on voit tout ça comme de la vanité et on est triste, malheureux d'être passé à côté de l'essentiel. Pour ça, moi, je suis très heureux de pouvoir donner ce week-end parce que j'ai l'impression de pouvoir donner le cœur de mon enseignement. Et moi-même, j'ai été amené à découvrir un aspect que je ne soulignais pas suffisamment. C'est pour ça que je vais le souligner maintenant. C'est, comme je l'ai introduit au deuxième enseignement, la question de l'action concrète. J'ai toujours insister sur le climat du cœur et sur la question des dispositions du cœur et du travail sur le cœur. Je voudrais redire ici que l'Église affirme que la sanctification du cœur et de notre être tout entier, qui lui aussi doit être tout entier saisi par Dieu, se fait donc aussi à travers la vie. Qu'il y a une corrélation mystérieuse entre l'intérieur et l'extérieur qui fait qu'il faut prendre au sérieux tout ce qu'on a à faire. Petite ou grande chose. Et à supporter. Comme disait une personne qui m'a éduqué, tout ce qu'on fait mérite d'être bien fait. Et c'est pas du perfectionnisme moral, encore une fois. C'est pas pour rejoindre un personnage idéal. C'est que tout peut servir à la croissance et à la fructification de l'amour. Pierre Coursat, il avait une expression qui lui revenait tout le temps. Il disait, il faut que ça brûle. La charité en nous, pour qu'elle fructifie, il faut qu'elle soit chauffée. Il faut que ça chauffe. Il faut qu'elle devienne brûlante. Écoutez. La logique des choses, elle est en Philippiens 1,9. Voici ma prière, que votre charité croissante toujours de plus en plus s'épanche en cette vraie connaissance et cette parfaite clairvoyance, l'intelligence du cœur des saints, qui vous donneront de discerner le meilleur et de vous rendre pur et sans reproche pour le jour du Christ, dans la pleine maturité de ce fruit de justice que nous portons par Jésus-Christ, pour la gloire et louange de Dieu. Comme on dit, il faut que la charité grandisse, se croisse, jusqu'au moment où elle puisse s'épancher, penser à un vase qui est rempli et qui finit par déborder, ou penser à quelque chose qui est une braise qu'on réveille, sur lequel on souffle pour que le feu reprenne, et à ce moment-là, ce feu va pouvoir se propager. Il faut que ça brûle. Je prends un exemple tout simple. L'exercice, je dirais, le plus simple, à mon avis, dans la vie quotidienne. Une personne me parle et elle a besoin quelque part d'une parole qui l'aide à vivre, une parole d'espérance. Et redonner de l'espérance à quelqu'un, par exemple, qui veut divorcer, quelqu'un qui redonner une parole d'espérance. Ça, c'est une œuvre divine. D'accord. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire produire une parole qui parle au cœur de l'autre et qui lui permette de sortir de sa désespérance et de son enfermement. Quel est l'exercice? Elle me parle. Quelle est ma sanctification? L'écoute. L'écoute. C'est ça mon devoir présent. Alors, où j'écoute un peu en étant comme ça, en cherchant ce que je vais dire, et puis en n'étant pas tout à fait présent parce que je suis inquiet, et puis où je plonge dans l'exercice. Je bois la coupe jusqu'au bout. Elle me prend mon temps, j'ai autre chose à faire, je bois la coupe jusqu'au bout. J'entre dans la passivité, la patience, j'exerce plein de vertus dans les coupes, l'humilité. Je me vide de moi-même, je lâche prise. Et puis le fruit, il vient quand? Ben, il vient quand c'est le moment. On sent que ça monte, il y a quelque chose qui monte. On sent qu'il y a des petites lumières qui viennent. C'est pas encore tout à fait mûr, je continue à écouter. On sent que ça monte, quelque chose qui monte. La sève de l'Esprit Saint qui monte. Sur le moment, l'Esprit Saint lui-même parlera, dit Jésus. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint qui parlera à travers vous. Oui, mais moyennant un travail. Moyennant un travail. Et c'est là que je vous ai cité au début d'après-midi l'exemple pour moi qui est de prendre le temps de mâcher des choses toutes simples, toutes bêtes, vous voyez, qui ont l'air de rien mais qui nous coûtent, peuvent nous coûter beaucoup. C'est là où je dis, là, nous qui ne sommes pas handicapés au niveau de l'intellect, qui pouvons exercer des actes réfléchis, conscients, nous devons mettre notre intelligence au service de notre sanctification et discerner la manière de nous sanctifier dans les choses de la vie. Comme ça, tout profitera. Comme ça, nous n'arrêterons pas de grandir. Comme ça, notre vie aura un vrai sens. Et une vraie fécondité. Quand je pense qu'il y a des gens qui passent leur vie à poursuivre des chimères, un idéal, un rêve, qui veulent à tout prix arriver à ceci, à cela, qui s'épuisent pour rien, et après ils n'y arrivent pas, ils sont malheureux, puis même ils arrivent à se mettre fin à leur jour parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ceci, ils n'ont rien compris au film, rien. Ben c'est complètement à côté de la réalité de la vie. C'est malheureux quand même de voir que des chrétiens qui ont entendu l'annonce du royaume de Dieu puissent vivre de cette manière-là. Et que quand on parle de sanctification, de sainteté, t'as dit même plus rien. Un truc complètement en dehors de la vie concrète, alors qu'il n'y a rien de plus concret que ça. C'est la seule chose qu'on soit sûr qu'on puisse faire. Ah oui. Parce que Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. Ça veut dire que Dieu fait tout contribuer à notre sanctification. Il n'y a pas d'exception. Pour cette même raison, apportez encore tout votre zèle à joindre à votre foi. La base de tout, la vertu, dit saint Pierre. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la constance. À la constance, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Vous voyez là les exercices. Avec un certain ordre, on s'exerce. Hein, et à partir de la foi, il y a une sanctification qui se fait pour que le don reçu dans la foi, dans la réceptivité, puisse grandir et fructifier. Et, dit saint Pierre, si ces choses vous appartiennent et qu'elles abondent, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vrai fruit, il vient au bout de ce travail. Il ne vient pas au bout de notre activisme et de notre vouloir faire et de notre orgueil.
qu'en fait, c'est important qu'on exerce ces vertus, non pas par une décision comme ça, aujourd'hui j'exerce telle vertu, mais que le Seigneur, il a vraiment une pédagogie pour nous dans notre vie. Et que les événements qu'on a à vivre, les questions qui nous sont posées, c'est celles-là qui sont la matière, en fait, à notre mesure, puisqu'il nous connaît. Et si on croit qu'il est Dieu amour, il nous donne à vivre ce qu'on peut vivre. Et donc je pense que c'est important que on n'aille pas sur un autre exercice. Par exemple, je pense à quelqu'un qui me dit, voilà, je suis qui est mariée, qui me dit finalement je suis une handicapée du mariage. Et je dis non, là on va travailler cette matière-là. Et non, il n'y a pas ça. On a un exercice à faire. Dieu nous donne à travailler dans notre vie concrète.
Oui, c'est ça. Il ne suffit pas de vouloir se sanctifier, il faut se sanctifier avec sagesse, c'est-à-dire en sachant discerner le chantier que Dieu nous offre, la manière de prendre la chose sous cet angle de sanctification. Et ça se fait évidemment, au fur et à mesure qu'on met la sanctification en premier, on apprend à saisir les occasions, à voir les perches que Dieu nous tend. Mais vous voyez, reprenons le dialogue, moi, ce dialogue, la question du dialogue, évidemment, je l'ai vécu intensément en tant qu'aumônier d'hôpital, parce que quand on est face à un mourant, on se rend compte très douloureusement de la vide, du creux de certaines paroles. Là, on ne peut parler qu'avec son cœur. Quand on a le cœur vide et sec, on se rend compte qu'on est vraiment un arbre stérile. Hein. Donc à certains moments, on n'arrive pas bien soi-même face à quelqu'un qui est en attente d'une parole divine qui l'aide à retrouver l'espérance, et nous-mêmes on est vide et creux, et c'est encore possible, il faut se dire que c'est malgré tout possible de remonter la pente, de se sanctifier. Alors je vous ai parlé de l'écoute, vous voyez, je me souviens, j'aime bien, j'ai déjà sûrement témoigné de ça, mais c'est un aumônier d'hôpital qui était rentré dans la chambre d'une personne malade en se disant si l'Esprit Saint ne met rien dans mon cœur, je dirai rien. Et il est rentré et il n'a rien dit, il est resté en silence, en priant dans son cœur. Et puis il est ressorti et la personne l'a fait remercier par une autre parce qu'elle avait eu plein de visites de gens qui étaient là, qui lui avaient parlé beaucoup et qui l'avaient beaucoup fatigué. Et qu'elle, par son silence, l'avait reposé. Voyez. Donc les personnes qui voulaient faire des choses pour elle, en lui parlant beaucoup, l'ont épuisée. Ça, c'est des œuvres stériles qui viennent de la chair, qui sont sans discernement, sans justesse. Et puis la personne qui a accepté son impuissance, qui a accepté qu'il n'y a rien qui sorte, elle a fait du bien. Parce que ce qui compte, c'est pas ce qui est dit, c'est l'esprit avec lequel on vit les choses de toute façon. Même si elle avait prononcé quelques mots, ça n'aurait rien changé. Elle était dans une passivité et une docilité à l'Esprit Saint qui a fait du bien au cœur de l'autre. Tout passe, vous savez. De cœur par le cœur. Tout se ressent à une profondeur qui nous échappe. Et je disais, oui, simplement pour s'appliquer à ce travail de sanctification, il faut à tout prix lâcher l'œuvre. Il faut faire confiance. Ça va venir. Il faut lâcher. Si dans sa tête, on est encore à vouloir maîtriser les choses, les situations, si on croit encore qu'on peut, par exemple, évangéliser nous-mêmes quelqu'un, c'est incroyable de penser ça. Absolument incapable d'évangéliser quelqu'un. C'est Dieu seul qui peut parler de Dieu, mais à travers nous, on est d'accord. Mais notre vouloir convertir, notre vouloir évangéliser, tout ça, ce sont des œuvres divines. Il faut passer dans une autre logique. J'ai devant moi les paroles de Don Bosco. Qui m'ont un peu fasciné, Don Bosco, qui a été un grand évangélisateur. qui a été un grand éducateur. Mon Dieu, ma vocation n'est pas le mariage, ni la vie consacrée. Ma vocation, c'est d'aimer. Tu ne m'appelles pas à prêcher et à évangéliser. Tu m'appelles à aimer. Il n'a fait que ça, prêcher. Tu ne me commandes pas de comprendre ni de faire comprendre. Tu me commandes d'aimer. Il n'a fait que ça, enseigner. Le jour où je paraîtrai devant toi, tu ne regarderas pas le mal que j'ai fait, que je n'ai pas fait, tu regarderas ma charité. Ma vocation, tout appel, toute vocation, tout appel, tout commandement est ordonné à l'amour. Notre seule vocation est la sainteté, et la sainteté, c'est la charité. Alors de dire, d'entendre de la bouche de Don Bosco, ma vocation, tu ne m'appelles pas à prêcher, ni à évangéliser, on dit, mais de quoi il parle? Il parle de la sanctification, mes amis. Notre seule vocation. Voyez, on garderait ça présent tout au long d'une journée. Ça changerait tout. Le problème, c'est qu'on a du mal à croire au royaume de Dieu, cette réalité cachée. Et on a du mal à garder le cap. Et on se laisse prendre par ce qui brille. Par le jugement du monde qui regarde selon les apparences. Et alors, on est dans le vouloir faire. Nous ne sommes pas de ceux qui se glorifient de ce qui se voit, dit saint Paul, mais de ceux qui se glorifient de ce qui ne se voit pas. Voilà, la réussite de notre vie, elle va tenir là. Que nous aurons pris au sérieux l'annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est au-dedans de nous. Voyez le laboureur. Il attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'au prochain. Pluie de la première et de l'arrière-saison. Soyez patients, vous aussi. Si c'est l'image du laboureur, il y a des temps pour semer. Le temps de la sanctification, c'est un temps de semaille. Puis il y a le fruit qui viendra en son temps. Rappelez-vous saint François de Sales. Il n'est pas bon d'entreprendre... autrement dit de grands projets avant d'avoir mené une vie cachée. Ça c'est les semailles. Un arbre quand il est jeune produit peu de fruits et même au début pas du tout. La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer. Les choses vont venir mais dans le secret, de manière cachée. Je repense, vous voyez, au chemin qu'a fait Jean-Paul II. Il a porté beaucoup de fruits par son activité apostolique, vécu d'une manière contemplative. Il a vraiment dit la vérité de son cœur, et ça a porté du fruit. Mais ensuite, il a été amené à travers la maladie à descendre dans une profondeur plus profonde, de facilité, d'abandon, de réceptivité, d'union au Christ. Puis vous avez vu le fruit mûr de sa vie, de sa fin de vie. Vous avez vu ces images de tous ces jeunes qui étaient là, place Saint-Pierre, qui respiraient la bonne odeur de l'amour pur, de cette sorte d'explosion d'amour qui a eu lieu à ce moment-là dans l'Église et qui a permis l'élection du cardinal Ratzinger, cette effusion de l'Esprit-Saint, tout ça qui s'est décidé dans le secret de ce qui s'est passé dans le cœur du souverain pontife, dans le plus intime, d'aller plus loin dans l'abandon, moyennant la souffrance, nous y reviendrons demain quand nous parlerons des épreuves. Vous voyez, ça, c'était le fruit mûr. Que de malades à l'hôpital m'ont dit qu'en pensant à Jean-Paul II, ça leur donnait du courage pour avancer. Quand ils ne l'ont jamais vu, ils ne l'avaient jamais vu, ils ne l'ont jamais entendu, ils ne l'ont jamais lu. Mais l'amour, il rayonne toujours. Quand il est pur, il rayonne, il traverse traverse le temps, il traverse les espaces. C'est ça la vraie fécondité. Jean-Paul II, il n'avait finalement pas prévu, c'était pas dans son programme de mourir comme ça et de porter ce fruit-là. Ça, c'était le dessein de Dieu et le chemin de Dieu qui ne sont pas les nôtres. Au début, ça a été très difficile pour lui de l'accepter. Il a mis tout un temps. C'est un homme hyperactif. Et Dieu l'a pris dans le sens contraire, comme souvent il fait. Il nous prend dans le sens contraire, nous amener à mourir plus profondément à nous-mêmes. La petite Thérèse, elle disait faire le sacrifice de ne pas voir les fruits. Je sème, je persévère dans ce travail de sanctification. J'accepte de ne pas voir tout de suite le fruit. Évidemment, attendre la mort pour voir le fruit, ça c'est comme la petite Thérèse qui avait de si grands désirs et puis qui est mort. Elle disait à la fin de sa vie, si j'avais parié sur les œuvres, je serais désespérée. Mais j'ai tout parié sur l'amour. Et elle a gagné. Elle s'est sanctifiée à travers une vie toute simple, elle qui rêvait d'être missionnaire, qui aurait voulu évangéliser au Vietnam, qui avait des rêves fous. Qui voulait être docteur, qui voulait même être prêtre, enfin elle avait un appétit incroyable. Guy Gaucher disait, si j'avais rencontré une carmélite me dire ça, je me disais, bon, elle est folle. Mais en fait, elle a compris que sa vocation c'était l'amour, comme Don Bosco, que l'amour suffisait, que l'amour ferait tout. Si elle avait l'amour, elle avait tout.
Juste une petite nuance, parce qu'on peut entendre ce discours en se disant aucun de mes talents n'a aucun sens, ce qui compte c'est la passivité, c'est l'amour, et je pense qu'il faut vraiment entendre comme une question de priorité, et c'est dans le respect de ces priorités que nos talents prennent tout leur sens. Je vais juste vous donner une anecdote qui est très connue et pour laquelle moi j'ai mis un certain temps à comprendre la pointe de la signification. C'est une anecdote que la biographe de saint Thomas d'Aquin raconte sur la fin de sa vie. Donc vous savez que c'est un immense intellectuel. Et sur la fin de sa vie, il a eu, comme beaucoup de grands saints, une espèce de crise mystique. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Mais à la fin de sa vie, il ne l'a plus écrit. Et il a dit une chose qui nous a été relatée, qui est la suivante. Il a rencontré une vieille femme priant dans une église et il dit « Je donnerai tout ce que j'ai écrit pour avoir la foi de cette vieille femme. » Et moi, pendant des années, je me suis dit « C'est une belle écriture pieusarde, façon légende dorée, ça n'a rien à voir avec la vraie vie. » En fait, il faut lire cette anecdote avec la fin. Pardon ? Oui. Il faut lire cette anecdote avec la fin. Et à la fin, le Christ lui apparaît à saint Thomas en lui disant « Thomas, tu as bien parlé de moi, viens dans la gloire. » Et donc il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Saint Thomas d'Aquin est un immense intellectuel, mais c'est d'abord un immense saint. Et c'est parce qu'il a été un grand saint qu'il a été un grand théologien. Et donc son talent a pris tout son sens, son talent d'intellectuel a pris tout son sens dans le fait qu'il mettait la foi de la vieille femme au-dessus de tout ce qu'il avait écrit. Et c'est ainsi qu'il a pu parler bien du Christ, et probablement c'est un de ceux qui a le mieux parlé du Christ, en dehors des personnes strictement inspirées. Et je vous dis ça tout simplement pour qu'on évite les malentendus. Nos talents ont un sens, si Dieu nous a créés avec ces talents-là, c'est pour qu'on en fasse quelque chose. Mais il faut vraiment les placer en dépendance directe du Créateur, et c'est pour le Créateur qu'on utilise ces talents qu'il nous a donnés.
Oui, je remercie Guillaume, mais je redis, hein, justification par la foi, la passivité, sanctification par la vie, l'activité. Mais simplement, il faut que nos talents, qui font partie de nos branches, soient vivifiés par la charité. Il faut que tout soit repris à l'intérieur d'un travail de sanctification. À ce moment-là, la charité anime tout. toutes les activités et fait fructifier nos talents. Sinon, comme dit saint Paul, si je n'ai pas la charité, je peux avoir toute la science, toute la connaissance, vendre tous mes biens en aumône, ça ne sert de rien. Donc les talents seraient stériles si la petite graine ne pouvait pas grandir et fructifier. C'est pas ma vie spirituelle d'un côté et puis la vie humaine de l'autre. C'est le royaume de Dieu, le levain qui fait lever toute la pâte, qui pénètre tout. On est bien d'accord. Alors, je dis que dans une journée, il y a des temps pour semer, il y a des temps pour récolter, il y a un temps pour tout. Le Coëlette me dit que, explicitement, il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sur le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Je regarde la tâche que Dieu donne aux enfants des hommes. Tout ce qu'il fait convient en son temps. Il a mis dans leur cœur l'ensemble du temps, mais sans que l'homme puisse saisir ce que Dieu fait du commencement à la fin. Dieu s'occupe de nous jusque dans le plus petit détail. Dans une journée, tout a son ordre. Tout ce qu'on a à faire et à supporter, tout ça est bien ordonné. De telle manière qu'il y a des temps pour mourir, des temps pour enfanter, des temps pour semer, des temps pour récolter. Des temps pour rentrer dans la passivité pure, si je puis dire, dans l'immobilité, parce qu'on n'a rien à faire si ce n'est qu'à attendre devant un feu rouge, par exemple. Bon exercice d'attente pure. Et des temps où on doit exercer une activité et on doit la vivre comme un exercice sanctifiant. Et puis des temps où ça va sortir. Ce sont des temps de joie où le fruit est mûr, et à ce moment-là, il y a des choses qui se font en nous et à travers nous qu'on n'aurait pas cru possible. Et tout ça est chronométré à la seconde près avec le bon Dieu. C'est simplement que nous sommes souvent à contre-temps. On veut parler alors que ce n'est pas le moment. On veut aider une personne alors que, en réalité, il n'y a pas de signaux et on fait trop vite, on suit nos idées, on est comme des éléphants dans un magasin de porcelaine, le plus souvent avec les âmes. Moi, c'est l'impression que je me donne quelquefois. Dès qu'on agit de nous-mêmes comme ça, en suivant notre idée, et au lieu d'épouser la providence divine, au lieu d'épouser les temps des choses, au lieu de laisser Dieu nous conduire pas après pas. Vous avez remarqué qu'on a un pape qui improvise de plus en plus. Il a dit une fois qu'il a laissé entendre, je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais qu'en vivant bien chaque chose, on avait la lumière nécessaire. Alors lui, de lumière, il en a absolument besoin. Mais en restant bien présent à Dieu, bien présent au moment présent, parce que ce que je prêche là, c'est la présence au moment présent, être dans le moment présent. En vivant bien toute chose, il avait la lumière au moment voulu. Alors, il y a plein de situations maintenant, de plus en plus, il n'a pas le temps de préparer les discours, il improvise. Et c'est ce qu'il y a de plus beau, généralement. Vous voyez Ça, c'est la vraie vie chrétienne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, vraiment, on agit sans... Comment dire? On n'a pas... quand on n'a pas de sécurité... sans filet, voilà. Vous voyez, hein? Appuyé, sans appui et pourtant appuyé. Il faudrait avoir un peu plus de goût du risque. La petite Thérèse confesse que, avec ses novices, elle disait, de loin, ça paraît tout rose de faire du bien aux âmes, enfin de les modeler d'après ses pensées personnelles. De près, c'est tout le contraire, le rose a disparu. Sans bien que faire du bien, ces choses aussi impossibles sont le secours du bon Dieu que de faire briller le soleil dans la nuit. Mais le soleil qui doit briller dans la nuit, c'est le soleil de notre charité, et qui peut seul faire du bien aux âmes, en nous et à travers nous, puis en se servant de nos talents, en intégrant nos talents. Alors, dans le Je vous ai parlé de l'exercice de l'écoute. Il y a des choses qui sont clairement occasion de briser notre volonté propre, qui sont des exercices sanctifiants. Par exemple, tout ce qui est besogne un peu pénible est très bon à prendre, vraiment. Genre vaisselle, ménage, tout ça, tout ce qui est humble, vous voyez, tout ça c'est super intéressant. Hein? Personne n'en doute. Sauf moi, qui ne profite pas assez. Bon. Enfin, quand je le fais bien, ça me profite. Voyez? Bon. Et. Non, mais il s'est proposé des actes de foi, quelquefois, parce qu'on a tellement d'autres choses plus intéressantes à faire, on se dit, mais non, je ne vais pas. Pourtant, ce serait le temps de semer. Bon. Ben, je fais des progrès, quand même. Anne-Claire confirme. Je gagne du terrain. Bon, en même temps, ça nous permet d'habiter la terre. Ben, la terre, c'est humus, humilité, c'est la terre. Hein. Donc, accepter notre condition corporelle, tout ce qui touche au corps, voyez, tout ce qui touche aux limites du corps, les accepter, ça c'est très sanctifiant. C'est vraiment une manière de briser notre l'orgueil spirituel, voyez, on voudrait être ne pas dépendre de tout ça, de toutes ces contraintes de la vie. Bon. Il y a des choses donc qui sont clairement sanctifiantes. Et puis il y a le boulot. Je me mets à votre place. Moi, j'ai jamais travaillé en dehors de prêtre, sauf au service militaire. J'ai fait un boulot qui m'allait tout à fait bien. J'étais chauffeur poids lourd. Non, parce qu'ils ont du discernement. Là, c'est la clairvoyance. Parfaite clairvoyance. Donc, ils ont tout de suite vu que j'avais le profil. Les roues qui pesaient 100 kilos, c'était tout à fait mon gabarit. C'était bien. Je dressais les camions. J'étais parfait. Donc, quand on est... Alors, ça, vous allez me dire, c'est particulièrement sanctifiant. C'est vrai, à l'époque, j'avais un peu plus de mal à vivre des exercices comme ça, mais imaginons que vous soyez dans le cadre de d'une entreprise. Bon, alors là, ça ne récolte pas. Hein. Dans le climat actuel, il y a vraiment des choses à faire, quoi, et à les faire bien. Comment on se sanctifie? Enfin, autrement dit, comment on peut se sanctifier dans l'ordinaire, absolument l'ordinaire? Pas l'exercice particulièrement crucifiant, mais l'ordinaire. Écoutez, par la raison, la personne humaine est capable de comprendre l'ordre des choses établies par le Créateur. Par sa volonté, elle est capable de se porter d'elle-même vers son bien véritable. Elle trouve sa perfection dans la recherche et l'amour du vrai et du bien. Du vrai et du bien. L'homme est tenu de suivre la loi morale qui le presse d'accomplir le bien, d'éviter le mal. En fait, on est fait pour faire le bien. Ce qui est juste, le juste bien. On peut parler ici de devoir d'État. Et nous avons une intelligence nous avons une conscience qui est faite pour discerner, pour voir ce qu'il faut faire. Quel que soit notre travail, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut discerner ce qu'il faut faire. Ah, c'est vrai 24 heures sur 24. Hein. Bon. Le principe de toute œuvre, c'est la raison. La volonté, comme dit saint Thomas d'Aquin, suit la raison. Notre volonté veut ce que la raison présente comme le vrai bien à faire. Ça, c'est inscrit en nous. Donc en fait, en sens, nos actions sont le fruit de nos pensées, elles découlent de nos pensées. Jadis vous étiez ténèbres, vous pensiez de manière enténébrée, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous en enfant de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ce discernement de ce qu'il faut faire minute après minute donc relève de la raison pratique qu'on appelle aussi la conscience. La conscience, signifie la capacité de vérité de l'homme, de voir le vrai bien à faire. La capacité de l'homme de corps reconnaître la vérité, qui lui impose en même temps le devoir de la chercher et de s'y soumettre. Nous sommes libres pour nous soumettre à la vérité. Dès qu'on voit le vrai bien à faire, d'accepter de le voir, et donc à ce moment-là, la volonté suit et on passe à l'acte. On est créé comme ça. La conscience est capacité de vérité et obéissance à l'égard de la vérité. C'est cela, accomplir la justice. Ici, je vous cite Nietzsche. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que d'accomplir la justice. Tu as une conscience pour ça. D'aimer la bonté, d'aimer la miséricorde, on y reviendra. Et marcher humblement avec ton Dieu, ça c'est sûr. Marcher humblement avec ton Dieu. Pourquoi humblement avec notre Dieu? Mais parce qu'en fait, la vérité que la conscience voit, à laquelle elle est faite, à laquelle elle doit se soumettre, elle est faite pour ça. Plutôt, nous sommes faits pour écouter notre conscience, et nous laisser conduire par notre conscience. Cette vérité, c'est pas nous qui la créons. Il nous est donné de voir ce qu'il faut faire. La meilleure preuve, c'est que nous savons très bien étouffer cette voix de la conscience, quand nous ne voulons pas voir. Ce que l'on voit là, c'est la conscience qui parle, qui nous dicte, le dictamen de la conscience. La première sanctification, première manière de nous sanctifier, c'est de marcher dans la vérité. C'est d'obéir à la vérité, de rester fidèle à la vérité, même au prix de la souffrance, d'être un homme de conscience. Parce que l'amour va grandir à travers ça. La vérité que Dieu nous donne de voir avec notre conscience, c'est la vérité qui, si je puis dire, correspond aux exigences de la charité, correspond à la croissance de la charité, correspond à ce que la charité fait ou ne fait pas. La charité accomplit la loi, dit saint Paul. Et nous accomplissons la loi morale pour laisser la charité grandir et fructifier en nous. Tout ce qui est contraire à la vérité que notre conscience nous donne de voir, tout ce que nous faisons contrairement à notre conscience blesse l'amour, l'empêche de fructifier. Voyez, ici, là, on est dans le concret de la vie. Là, on n'y échappe pas. Le rapport à la vérité, la fidélité à la conscience, là, on est touché de plein fouet. À tout moment, la conscience est là, qui est prête à nous dire vraiment ce qui est bien. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Souvent, notre conscience, elle est endormie. Un peu de temps, on la laisse dormir, anesthésiée, comme dirait Jean-Paul II. Et qu'est-ce qui la remplace? Une idée de bien. Le mariage pour tous, une idée de bien. Mais cet enfant, il sera malheureux, c'est pas la peine de le garder. Une idée de bien. Mais voyez ce malade, il souffre trop. Une idée de bien. Et la voix de la conscience, tu ne tueras pas, elle ne retentit plus. Parce qu'on ne veut pas se soumettre à la vérité, on veut suivre son idée. Une idée de bien, évidemment. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Une idée de bien. Mais faire le bien, ce n'est pas suivre son idée de bien. C'est pas suivre son projet sur l'autre, de se dire ce serait bien pour lui. Non. Faire le bien, c'est faire le bien moral. Faire ce qui est bien en soi, juste. Juste selon la loi qui est inscrite dans notre cœur. En toute conscience, en toute morale, oui. En toute exigence morale, oui, n'ayons pas peur du mot, réconcilions-nous avec la morale. Ceux qui disent « j'aime Jésus, j'aime pas la morale » n'ont pas compris. J'aime la morale parce que j'aime Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, dit Jésus. L'exigence morale, la rectitude morale, la justice dans la vie. Je prends un exemple. Ça a été un exemple débattu, mais moi je l'aime bien cet exemple. Une famille polonaise reçoit d'une mère juive, avant que celle-ci ne soit exterminée, un enfant qu'elle confie à cette famille catholique, qui soit éduqué selon la religion de ses pères. Et elle lui dit, vous le confierez à sa tante, vous retrouverez telle adresse, qu'il puisse être éduqué dans la religion de son père. En toute justice, qui a autorité pour le choix de la religion de l'enfant? En toute justice, les parents. On est d'accord? En toute justice. Maintenant, cette famille catholique ne trouve pas la tante en question. Elle a dû être exterminée elle-même. Il n'y a plus aucune famille. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Nous, on est catholiques. On a la foi. On croit en Jésus. Pour son bien, on va le baptiser, n'est-ce pas? Pour son bien, idée de bien. Ils vont voir un prêtre. Ils vont dire, alors on le fait baptiser, pour son bien. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Ta conscience, qu'est-ce qu'elle te dit? Ses parents, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Non, faites-le éduquer dans la religion juive. En conscience. Un homme de conscience. Bravo. Il s'appelait Karol Wojtyla. Quand il est revenu à Jérusalem, pèlerinage, il a rencontré cet enfant. Il était rabbin. Et il a témoigné. Et ça a évangélisé le monde entier. Et sinon, il serait passé quoi? Il serait passé qu'il y aurait eu une injustice de départ. Il serait passé que cet enfant adolescent aurait recherché son origine. Il serait passé qu'il aurait eu une terrible colère. Il serait passé qu'il aurait fait une allergie complète à l'Église. Maintenant, je connais, j'ai rencontré un autre cas, cette fois-ci, moi je l'ai rencontré, un prêtre juif polonais. Et lui, quand sa mère l'a donné à une famille catholique polonaise, sachant qu'elle allait mourir, elle a dit aux parents, il sera prêtre. De fait, il est devenu prêtre. Simplement, la famille, de manière à mon avis un peu maladroite, a caché à cet enfant qu'il était juif, pas aussi, plus aucune famille. Et une fois prêtre, il a découvert qu'il était juif. Et moi, je l'ai entendu témoigner et dire, mais il est revenu à Jérusalem, il a retrouvé son oncle qui était à Jérusalem, qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu ressembles à ton père? Reviens dans la religion de tes pères. Ça a été pour lui une grande déchirure, mais il m'a dit, moi, je ne pouvais pas trahir Jésus. Et donc, il est resté prêtre. Mais il n'y avait pas d'injustice. La mère avait dit, il sera prêtre. Et c'est différent. Suivre aveuglément la justice. On n'aurait pas eu cette crise avec les prêtres pédophiles si on avait suivi aveuglément la justice. Pas se dire pour son bien. Alors, pour le bien du prêtre, pour son bien. Mais non, son vrai bien, c'est qu'il soit soumis à la justice, qu'il y ait une condamnation, une correction, c'est son vrai bien. Parce que le bien de la personne, tout le monde l'imagine à sa manière. Mais il faut être miséricordieux. Mais miséricordieux vis-à-vis de qui? La miséricorde ne peut pas être aux dépens d'un enfant, d'une famille. Que je dis d'un enfant, de plusieurs enfants. Qu'est-ce que c'est cette miséricorde aveugle? Ça, c'est, on poursuit une œuvre. On a une bonne intention, on poursuit une œuvre. Et la justice? Vous voyez là-dessus, Benoît XVI, moi, il m'a énormément édifié, et il m'a énormément fortifié dans l'idée qu'un chrétien, c'est un homme qui aime la vérité et qui suit la vérité, et qui fait la vérité. Et que l'obéissance à la vérité, la justice, c'est comme disait Paul VI, cité par Benoît XVI, le minimum de la charité. Sinon, on a affaire à un truc, le bien intentionné, quoi. Le bien intentionné sans vérité. Où on met sous couvert d'amour, sous couvert de miséricorde, de compassion, toutes nos illusions. Et ça on voit à quel point c'est une tentation pour les chrétiens d'avoir une vision de la charité, comme un idéal, voilà, un idéal de faire du bien, le plus de bien possible, y compris en étouffant, en ne respectant pas les exigences de la justice. Être esclave de l'obéissance à la justice, l'expression est de saint Paul. Esclave de l'obéissance à la justice. En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes. On suit aveuglément ce que nous dicte notre conscience. L'humilité est avant tout vérité, dit Benoît XVI, vivre dans la vérité. C'est le début de l'être chrétien, dit Benoît XVI, vivre la vérité. C'est seulement en vivant la vérité que je vis bien. Vivre contre la vérité est toujours mal vivre. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, parce que nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quelqu'un qui est qui est dans cette exigence de vérité, cet amour de la vérité, ce respect de la vérité, cette conformation à la vérité, voyez, et qui n'est pas particulièrement affectueux, qui n'est pas dans, comme disait, je repense au cardinal 23, disant la communauté chrétienne n'est pas une communauté affectivo-bécotante, il n'est pas dans l'affectivo-bécotant, voyez, mais il est droit. Il est juste, il suit la vérité que Dieu nous donne de voir, que ça plaise ou non. Ça, c'est un homme qui aime. L'amour consiste à garder les commandements. Alors, vous voyez des gens qui sont très, très affectueux, c'est des bisous partout, c'est des comment tu vas, maintenant on se fait des câlins, tout, tout, tout. Il n'y a pas de vérité. Moi, ces gens-là, je ne fais pas confiance. Pas comme ça que l'amour grandit et fructifie. Vous voyez, et ici, on n'est pas au niveau des sentiments, on ne fait pas du sentimentalisme. Là-dessus, je pense que le christianisme, il a besoin de retrouver un peu de vigueur, vous voyez. Il faut arrêter la charité charitable sans discernement. Je crois qu'on se fait piéger parce qu'on a une image de la charité, on veut rejoindre un idéal de charité. Alors c'est, on se permet de faire à peu près n'importe quoi au nom d'un idéal de charité parce qu'on s'est donné une certaine image de l'homme charitable et on veut rejoindre cette image de l'homme charitable. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. Suivre le chemin de l'amour, c'est d'abord marcher dans la lumière. En se laissant guider par la lumière. Moi, je regrette d'avoir aidé des personnes sans avoir fait attention à ce qui était vraiment juste dans l'aide que je leur donnais. J'en ai fait souvent trop. Je n'ai pas été un bon éducateur. J'aurais dû être plus exigeant, plus dans la vérité pour eux-mêmes, vis-à-vis de moi-même. Pas accepter des trucs pas clairs. Ah, Benoît XVI, il nous fait beaucoup de bien. Dieu l'a choisi pour faire le ménage. La discipline pour l'insensé, ce sont des entraves à ses pieds et des menottes à sa main droite. Pour l'homme sensé, la discipline est un bijou d'or, un bracelet à son bras droit. Tant qu'on est dans le vouloir faire des choses et qu'on poursuit des œuvres, les commandements de Dieu, ça dérange. Ça met des limites. Ah, on peut pas faire ça. Ah, oh, mais enfin, on peut pas faire ça. Faut pas exagérer, faut pas être moraliste. Oh. Ouais, ça limite, parce qu'on poursuit son truc. On suit son idée. Alors c'est des menottes. Arrêtez de nous embêter avec cette morale-là, comme ça. Laissez-nous vivre. Menottes. Pour le sage, les commandements, c'est des bracelets. C'est ce qui lui permet de rester sur le chemin de l'amour. C'est ce qui permet à l'amour de fructifier. Les commandements, il trouve sa joie de façon de plus en plus. Il met sa joie dans l'obéissance elle-même, à la vérité. Vous garderez les commandements, les ordres du Seigneur. Vous les mettrez en pratique. Ils sont votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. La sagesse contenue dans les exigences de la loi. Benoît XVI en parle comme un art d'être des hommes, un art de pouvoir bien vivre. De quel amour j'aime ta loi. Et il dit, Benoît XVI insiste sur le fait que dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple est heureux de connaître la loi de Dieu. Il est heureux de connaître ses commandements. Il le vit comme un privilège. Dieu lui a révélé ses volontés. Je dis, il faudrait nous réconcilier avec la morale. Vraiment, jusqu'au bout. Pensez que c'est un cadeau que Dieu nous a fait de confirmer par sa loi divine, la loi naturelle inscrite dans nos cœurs. La réussite de notre vie, elle passait par cet esprit d'obéissance à ce qui est inscrit en nous fondamentalement pour nous permettre de nous sanctifier dans toutes les circonstances de notre vie. Parce que tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, il y a une exigence morale. Alors, j'ai appris que dans la tradition rabbinique, il y a 613 commandements divisés en 365 commandements négatifs. Tout le temps est couvert par les commandements. Et il reste 248 commandements positifs, autant que d'eau dans le corps humain, selon le comptage des rabbins. D'os. Donc, pour les rabbins, la Torah couvre toute la vie et tout l'être. Tout est compris dans les commandements. Rien n'y échappe. Et nous, avec nos 10 commandements, qu'est-ce qu'on fait? En fait, notre loi, c'est le Christ lui-même, la loi vivante. Ultimement, le Christ, lui, a assumé tout le temps et tout l'être humain, toute la vie. Il a été éprouvé en tout comme nous. Et donc, en fait, la lumière, la sagesse à laquelle nous devons obéir, c'est en définitive, évidemment, ça comprend, le Christ accomplit tous les commandements de la loi morale, mais il n'y a plus toutes les prescriptions sur la manière de reprendre le repas, sur la manière de ceci, toutes les prescriptions juives, mais par contre, nous pouvons en tout instant limiter. La vérité que nous avons à suivre, elle ne se limite pas à la loi morale, elle est la vérité qu'est le Christ, nous conformer à lui. À tout instant de notre vie, nous pourrions nous poser la question, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place, pour dire les choses autrement, voyez? Mais on n'a pas nécessairement à se poser cette question, ce serait un peu fatigant de toutes les minutes se demander qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Mais par contre, en gardant Jésus présent à notre esprit, à notre cœur, nous pouvons marcher dans la lumière. Parce qu'il est notre loi. Et il nous fera sentir avec l'intelligence du cœur, avec une conscience éclairée, ce qui est parfaitement juste, comme dit saint Paul, discerner le meilleur. Pas seulement ce qui est moralement bon, mais ce qui est parfait. Parfaitement digne de notre vocation de fils de Dieu, dans la situation dans laquelle je vis. À l'exemple du saint qui vous a appelé, devenez saint vous aussi dans toute votre conduite. Vous serez saint parce que moi je suis saint. Être saint dans toute sa conduite et tout son être, l'esprit, l'âme et le corps, comme dit aussi saint Paul. Le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus, le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher, enraciner et édifier en lui. Enraciner, pas seulement enraciner, on a vu en quel sens, enraciner dans son ouverture au Père, enraciner dans sa relation au Père, mais aussi marcher en lui, marcher dans sa lumière. On est enraciné en lui, on marche en lui. Et comme ça, on s'édifie en lui. Appuyer sur la foi. L'homme spirituel, dit saint Paul, juge de tout, il a la pensée du Christ. Et ça, c'est le fruit d'un long chemin de purification. Où de fait, on réussit à rester en contact avec Jésus, à garder la présence de Jésus en nous, à le garder présent en nous, et progressivement à communier à ses pensées, à ses sentiments. À ce moment-là, la conscience est élargie, si je puis dire. L'espace de la conscience est élargi, elle s'affine, elle est éclairée d'une lumière proprement surnaturelle qui lui permet non seulement de discerner ce qui est licite ou illicite, ce qui est moralement juste ou pas, mais qui lui permet de discerner l'action dans toute sa... l'action parfaitement ajustée. Avec un discernement qui tient compte des circonstances. Il y a des circonstances, il n'y a que les dieux qui les connaissent vraiment. Et donc, on a vraiment besoin du secours de l'Esprit Saint pour poser des actes parfaitement ajustés. Surtout dans un monde où il y a beaucoup de loups et peu de brebis. Voyez. Donc, on puisse dire, c'est qu'il vaut mieux être parfaitement ajusté. Alors, c'est normal qu'au début, on vive la loi comme quelque chose de pesant, contraignant par rapport à nos projets et tout ça. L'Écriture dit que Dieu dit « Engage tes pieds dans ses entraves, présente ton épaule à son fardeau, ne sois pas impatient de ses liens. À la fin, tu trouveras en elle le repos et pour toi, elle se changera en joie. » Et Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime, accrochons-nous. » Au début, ça coûte. On s'accroche à la justice, quitte à être complètement décalé par rapport au monde, on reste honnête. Bon. Et puis il y a un fruit qui est que Jésus, quand il voit notre persévérance dans le bien, dans la justice, il se manifeste à nous. Comme il se manifeste à nous, il le dit, hein, celui qui a mes commandements, c'est lui qui garde mes commandements, c'est lui qui m'aime, et moi je me manifesterai à lui. Je l'aimerai, je me manifesterai à lui. Et à ce moment-là, il nous donne une plus grande lumière et une plus grande sagesse. Il fait qu'on vit plus aisément les commandements, on les comprend mieux et ça coule mieux. Voilà, le démon sera toujours là pour nous faire croire que si on suit ce chemin-là, la vie va être invivable, on ne va pas s'en sortir. Surtout dans un monde tel qu'il est là, rester dans la justice alors que personne ne l'est, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Mais écoutez, on est appelé aussi à perdre notre vie à cause du Christ et de l'Évangile. Celui qui perd sa vie la trouvera. Ça, c'est du martyr au quotidien, la fidélité à la vérité, même au prix de la souffrance. Si on persévère, si on persévère dans cette fidélité au commandement, forcément on va se heurter à des résistances aussi en nous, celles de nos passions. Et je dirais qu'un des premiers fruits de cette fidélité au commandement, dans notre vie concrète, c'est qu'on va être amené à faire un travail sur nous-mêmes, précisément pour que nous puissions davantage nous soumettre au commandement de Dieu, et forcément à purifier des choses dans la chair et dans l'esprit.
Juste un petit mot, mais quand on est mal à l'aise avec ce cadre moral, le fait de suivre un commandement, on a peut-être psychologiquement une blessure aussi par rapport à nos parents qui nous ont imposé un cadre moral dans lequel on a grandi. Et donc c'est extrêmement important de faire un travail sur soi pour se réconcilier avec ce cadre moral, parce que ça va toucher notre péché, puisque le péché le plus grave, c'est celui de se couper de cette relation à Dieu le Père. Donc c'est une représentation parentale aussi. Donc réorganiser sa vie, faire un travail sur soi par rapport à nos parents, ça nous permet de retrouver Dieu le Père et de réorganiser notre vie. Et ça nous permet de voir ce que Dieu le Père a mis comme élan créateur pour que nous portions du fruit. Et ça permet aussi, et on peut avoir des blessures non seulement individuelles, mais aussi transgénérationnelles dans nos familles par rapport à ça. Et on parlait tout à l'heure avec Michel de la crise de mai 68. Mai 68, les gens qui ont vécu mai 68, leur père n'était pas là, ils étaient à la guerre. Il y a une blessure là, de cette relation au père, il faut la restaurer.
C'est très libérant tout ça.
Et donc, il ne faut pas nous étonner que ce soit difficile, ce chemin-là. L'Écriture dit que la sagesse nous conduit d'abord par un chemin sinueux. Elle nous tourmente par sa discipline. Elle nous tourmente. Parce qu'il y a en nous des désirs de la chair qui se retrouvent, je dirais, crucifiés par ses exigences. Et ensuite, elle revient vers lui et le réjouit et lui découvre ses secrets. Il vaut mieux en barrer au début, quoi. Il faut vraiment se dire, bon, il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas selon la loi de l'Église, je vais prendre ça au sérieux, je vais essayer de me conformer à cette loi de Dieu, je vais faire ce travail sur moi-même. Vous voyez, je pense à la question de la contraception, par exemple, c'est pour certains couples vraiment une question crucifiante, mais c'est l'occasion d'un travail, justement. Il y a d'autres questions qui sont pas, je plus souvent, pas bien intégrées dans la vie chrétienne, et ce qui fait que c'est fait qu'on ne va pas plus loin non plus au niveau de la sanctification. On y reviendra, mais ce qui est gênant, c'est pas tant qu'il y aura toujours des manquements par rapport à la loi normale, c'est le fait intérieurement de refuser de se soumettre. C'est pas le fait de tomber.
Je me demande, Michou, c'est refuser de se soumettre, en fait, c'est refuser de grandir. C'est ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps. C'est un psychiatre qui me disait, je lui parlais d'un patient qui me racontait qu'il volait dans le magasin, un patient adulte. Et il me disait, moi-même, ce psychiatre, il me disait qu'il avait volé lui aussi, petit, enfant, adolescent, adulte, et il avait compris un jour que c'est parce qu'il ne voulait pas grandir. Parce que parfois on ne veut pas grandir parce que on se victimise, enfin, on est victime, on se plaint. On accuse les autres, on accuse les événements de notre vie qui nous ont blessés, et du coup, on tourne en rond, on est dans un cercle vicieux, on ne bouge pas. Voilà.
Je tiens mon âme collée aux exigences, je me tiens collé aux exigences de Dieu, dit le psalmiste. Se tenir collé aux exigences de Dieu, c'est décoller par rapport à nos projets. Forcément, il y a des exigences de Dieu qui vont faire qu'il y a des choses qu'on aurait aimé faire qui ne vont pas être possibles. Et ça, c'est extrêmement libérant. Vraiment, ça nous libère de nous-mêmes. Ça nous oblige à un lâcher prise. Ça, je dis suivre aveuglément la vérité. Et souvent, vous voyez, quand on reste accroché à un projet, en fait, on est comme le lévite et le prêtre du bon samaritain. L'homme qui est sur le chemin blessé, on ne le voit pas. C'est-à-dire, tous ces pauvres, toutes ces personnes, les dérangeants, quoi, les gens pas prévus au programme, vous voyez, que Dieu met sur notre route, là, on suit son idée, on suit son projet, là, il n'y a pas de temps, on ne les voit pas. Et en fait, parce qu'on est omnibilé par notre idée, ou alors on parle avec les gens et puis on ne parle pas vraiment, parce qu'en réalité, on suit toujours son idée. Moi, je dis à ce niveau-là, il faut faire très attention aux choses pas prévues, quoi. Aux choses qui nous dérangent. C'est Dieu qui frappe à la porte et qui attend qu'on écoute notre conscience. L'homme... Benoît XVI a dénoncé les idéologies qui avaient sacrifié le présent au nom de l'avenir, à commencer par le communisme. Il a dit ça. L'humanisation du monde ne peut être promue en renonçant pour le moment à se comporter de manière humaine. Bien, nous ne pouvons pas réussir notre vie en renonçant à nous comporter d'une manière juste et vraie et dans l'amour avec des personnes sous prétexte qu'on a des choses plus importantes à faire et qu'on poursuit son projet. Non. On ne prépare l'avenir qu'en restant fidèle à la vérité, instant après instant, jusqu'au bout, même si ça nous conduit là où on ne voudrait pas aller. Fais le bien, habite la terre, reste fidèle. Fais confiance. Nous ne contribuons à un monde meilleur qu'en faisant le bien, maintenant et personnellement, passionnément, partout où cela est possible. Ça, c'est du chrétien, ça. Faire le bien, maintenant, dans le moment présent, partout où c'est possible, passionnément. Tiens-toi collé à ces exigences. Fais le bien, habite la terre. Tiens-toi fidèle. Tiens-toi à ta besogne. Le fruit viendra en son temps. On se laisse piéger par ce qu'on appelle en philosophie et morale le conséquentialisme. C'est-à-dire on prévoit la conséquence de l'acte. Au lieu de faire le bien en toute justice, on prévoit les conséquences. Et là, on a le calcul en disant, mais si je fais ça, la conséquence, maintenant, il faut faire ça. Alors, par exemple, par exemple, sur les questions d'euthanasie, on est là dans le chercher des... Ou alors, on se dit, ben voilà, si cet enfant très handicapé, je le laisse vivre, ben, il va souffrir énormément, c'est terrible, on imagine plein de trucs. On se prend à la place de Dieu, en fait. On prend la place de Dieu, on détermine l'avenir de la personne, la valeur aussi de sa vie future. Enfin, c'est nous qui projetons tout, quoi. D'ailleurs, on pense ce qui ne dépend pas de nous, et ce qui ne dépend pas de nous, on ne le pense pas. Ce qui dépend de nous, on ne le pense pas. Ce qui dépend de nous, c'est de penser le bien présent. Qu'est-ce qui est juste là, maintenant, de faire, purement et simplement. Lâche tes idées de bien. Lâche ton calcul de conséquences. Rentre dans l'écoute de ta conscience. Dieu a fait l'homme tout droit et lui cherche bien des calculs. Coëlette. Marche tout droit. Renoncez au calcul. Calcul des conséquences. Le programme du chrétien, le programme du bon samaritain, le programme de Jésus du Benoît XVI est un cœur qui voit dans le moment présent. Ce cœur voit où l'amour est nécessaire et il agit en conséquence. Point barre. Il voit le bien faire, il agit. Point. Pas de calcul, pas de projet, pas de fidélité simplement à la lumière. Voyez, un cœur qui voit, c'est un peu plus qu'une conscience éclairée par la loi morale. C'est une conscience éclairée par la loi morale, mais aussi par une lumière qui nous fait voir les vrais besoins de l'autre aussi, qui nous fait voir la vérité des choses, la vérité de la situation, les vrais besoins. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on est vraiment libre, libre d'aimer. Libre d'aimer à tout moment. On n'est pas enfermé dans ces petits projets et ces petits calculs. On sait saisir toutes les occasions qu'il y a de faire le bien, sans se lasser. Écoutez la petite Thérèse. Elle me fit remarquer que le propre de l'amour était de sacrifier tout, de donner à tort et à travers, de gaspiller, d'anéantir l'espérance même des fruits, d'agir avec folie, d'être prodigue à l'excès, de ne jamais calculer. On ne peut pas dire que ce soit un traité de moralisme, hein ? À la folie. Ne jamais calculer, prodigue à l'excès. On suit la vérité, purement et simplement, de son cœur, et on agit selon son cœur, selon la vérité de son cœur. On ne reste pas dans nos petits schémas, nos petits raisonnements comme ça, mesquins, à partir de trucs qu'on ne sait même pas, en fait, on imagine que ça va faire ceci. Hein. Donc, en fait, on trouve la liberté. La liberté d'être soi-même, de vivre selon son cœur. Dans cette obéissance à la vérité. On trouve la sagesse. On trouve la liberté. On sait que personne ne pourra nous empêcher de suivre ce chemin. Écoutez bien, l'esclave sage a les hommes libres comme serviteurs. Et bien entendu, l'esclave sage a les hommes libres comme serviteurs. Pourquoi ? Parce qu'il sait profiter de tout. Dans son état d'esclavage, en réalité, apparemment il dépend des autres, en réalité il dépend de personne. Parce qu'il suit son chemin. c'est les autres qui lui sont utiles, dont il tire profit de tout. Donc il a tout comme serviteur. Et ça c'est la vie chrétienne, on respire, hein. On se rend pas malheureux pour des bêtises. Tout ça, ça conduit à l'abandon, à un état d'abandon, dans lequel finalement on met sa joie dans l'obéissance elle-même, de plus en plus. Moi, je peux dire qu'on peut vivre sans avoir de projet. On n'est pas obligé d'avoir un projet de vie. Certes, on a besoin, comme dit Benoît XVI, de petits espoirs, jour après jour. On a besoin de se dire, bon, on serait bien d'arriver à ceci, à cela. Mais on remet tout ça dans les mains de Dieu. L'essentiel, on pourra toujours le faire. Dans le moment présent, rester fidèle à Dieu, restant fidèle à la vérité. Ça suffit, quelles que soient les circonstances. Mon unique boussole, disait la petite Thérèse à la fin de sa vie, c'était l'abandon. Trouver sa joie dans l'obéissance elle-même. Ne nous lassons pas de faire le bien. En son temps viendra la récolte, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi. Nous pouvons terminer en prenant la prière d'Edichstein. Laisse-moi, Seigneur, marcher sans voir sur les chemins qui sont les tiens. Je ne veux pas savoir où tu me conduis. Ne suis-je pas ton enfant? Tu es le Père de la sagesse et aussi mon Père. Même si tu conduis à travers la nuit, tu me conduis vers toi. Seigneur, laisse arriver ce que tu veux. Je suis prête, même si jamais tu ne me rassasies en cette vie. Tu es le Seigneur du temps. Fais tout selon les plans de ta sagesse. Quand doucement tu appelles au sacrifice, aide-moi, oui, à l'accomplir. Laisse-moi dépasser totalement mon petit moi pour que, morte à moi-même, je ne vive plus que pour toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit.